Vous écoutez RFI, les 16h à Paris, 15h à Londres et en temps universel.
Guillaume Ouattara.
À la une de cette nouvelle édition, Londres justement, au centre du monde occidental ce dimanche. Le sommet européen sur l'Ukraine s'est ouvert il y a une heure. Keir Starmer accueille une quinzaine de dirigeants occidentaux pour tenter de renforcer le soutien à Kiev. Nous serons sur place dès le début de ce journal. À Gaza, une trêve à bout de souffle. Israël suspend l'aide humanitaire à l'enclave après le rejet par le Hamas d'une offre américaine prolongeant la trêve. 4 Palestiniens tués ce dimanche dans des frappes israéliennes. En Argentine, Milei s'auto-congratule un an après son arrivée au pouvoir. Il célèbre son bilan devant le Parlement. Selon lui, son plan d'austérité est un succès. Et puis en Inde, la guerre contre la pollution s'intensifie. À New Delhi, les voitures de plus de 15 ans interdites de carburant dès avril. Londres est donc au centre du monde ce dimanche. Il y a une heure, s'est ouvert à Lancaster House, près du palais de Buckingham, le sommet européen consacré à l'Ukraine. Le Premier ministre Keir Starmer a accueilli la quinzaine de dirigeants occidentaux qu'il avait conviés. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien en tête, évidemment. Emmanuel Macron, avec lequel il s'est entretenu plus tôt dans la journée, mais également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Bonjour Sarah Menaille.
Bonjour Guillaume.
Correspondante de RFI au Royaume-Uni. Alors que faut-il attendre des échanges qui se déroulent en ce moment même ?
Alors il y a plusieurs enjeux à ce sommet européen. Remettre l'Ukraine d'abord au centre des discussions, en la remettant notamment en position de force, grâce notamment à un soutien militaire continu. S'accorder ensuite sur la nécessité de donner à Volodymyr Zelensky les garanties nécessaires du respect d'un cessez-le-feu, lui donner ce fameux filet de sécurité, et afficher enfin évidemment un front européen commun, uni face aux États-Unis et à la Russie. Alors ce matin, Keir Starmer a accordé une interview à la BBC dans laquelle le Premier ministre britannique a réitéré du soutien inconditionnel du Royaume-Uni à l'Ukraine. Keir Starmer a dit qu'il allait travailler main dans la main avec Emmanuel Macron, le président français, notamment pour proposer un accord à Volodymyr Zelensky. Il a ensuite reçu la première ministre italienne à Downing Street. Il est très important d'éviter le risque que l'Occident se divise, a déclaré Giorgia Meloni, qui a ajouté que l'Italie et le Royaume-Uni pouvaient construire des ponts. Enfin, le premier ministre polonais Donald Tusk a lui déclaré que la Pologne pourrait utiliser aussi ses liens amicaux avec Washington pour persuader les États-Unis de soutenir l'avantage l'Ukraine. Vous l'aurez compris, il faut donc afficher un front uni, soutenir le président Zelensky après la débâcle de Washington et répondre ensuite à Donald Trump en affichant donc un front commun face aux États-Unis et à la Russie.
Merci beaucoup Sarah Menaille, correspondante de RFI en direct de Londres. Au Proche-Orient, assiste-t-on aux dernières heures de la fragile trêve entre Israël et le Hamas? L'impasse est totale après l'expiration de la première phase du cessez-le-feu. Cette nuit, Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Elle accuse le Hamas d'avoir rejeté l'offre américaine qui voulait prolonger la trêve jusqu'à la mi-avril. Le mouvement islamiste dénonce quant à lui une violation de l'accord et exige l'application immédiate de la deuxième phase. Sur le terrain, la tension monte. 4 Palestiniens ont été tués ce dimanche dans des frappes israéliennes. L'armée affirme avoir visé des suspects manipulant un engin explosif. Pendant ce temps, Washington accélère l'envoi de 4 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Ce matin, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a confirmé qu'une réunion du cabinet de sécurité avait eu lieu cette nuit. Il en explique les conclusions.
Allez-vous accorder ce cessez-le-feu gratuitement, sans libération d'otages? C'est une chose que nous n'accepterons pas. Donc oui, nous sommes prêts à négocier sur la deuxième phase selon nos principes. Nous sommes également d'accord avec la proposition américaine d'un cadre plus long de 50 jours supplémentaires pendant le Ramadan et la Pâque. Mais dans ce cadre, selon la proposition américaine, une libération d'otages est prévue.
Gideon Saar, le ministre israélien des Affaires étrangères. Le meilleur gouvernement de l'histoire de l'Argentine pour Javier Milei. Le bilan de sa première année au pouvoir est très très positif. Lors de son discours de politique générale devant le Parlement hier, le président argentin s'est félicité des résultats économiques de son plan surnommé tronçonneuse pour réduire les dépenses publiques. À Buenos Aires, Théo Conscience.
15 mois après son arrivée au pouvoir, Javier Milei dresse un bilan selon lui sans appel.
L'état de la nation est aujourd'hui beaucoup plus prometteur qu'il y a un an.
Inflation annuelle divisée par 3, monnaie stabilisée, excédent budgétaire. Devant un parlement à moitié vide, le président argentin a défendu son bilan mais surtout sa recette. la désormais célèbre tronçonneuse, grâce à laquelle il a réduit les dépenses publiques d'un tiers en un an.
La tronçonneuse est aujourd'hui le symbole d'un changement d'époque, le début d'une nouvelle ère de prospérité pour l'humanité. Et cette fois, plutôt que d'aller à contresens, l'Argentine est à l'avant-garde mondiale.
Javier Milei l'assure, Elon Musk, à qui il a personnellement offert une tronçonneuse dorée, s'inspire de ce qui se fait en Argentine pour réduire la taille de l'État fédéral américain. Après avoir licencié plus de 40 000 fonctionnaires, après avoir coupé dans les budgets des retraites, des aides sociales et des universités, le président argentin compte maintenir son cap, qu'importe le coût social.
La tronçonneuse est une politique d'État qui durera des années et qui ne s'arrêtera que quand elle sera arrivée à bout de l'État, sur le long terme.
Sous les applaudissements des élus de son parti, Javier Milei ouvre officiellement la session annuelle du Parlement et lance la campagne pour les élections législatives d'octobre. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En Inde, à New Delhi, la pollution de l'air reste un fléau. La mégalopole de 30 millions d'habitants arrive régulièrement en tête des palmarès des villes les plus polluées de la planète. Mesure phare d'un nouveau plan destiné à réduire la pollution. Les véhicules de plus de 15 ans ne pourront plus faire le plein de carburant à New Delhi à partir d'avril. Une décision qui fait débat, Léa Ojal.
Devant une station d'essence à New Delhi, les conducteurs défilent. À bord de sa voiture, Vinat Kumar, la quarantaine, patiente sous un soleil de plomb. Pour cet Indien, cette mesure n'est pas suffisante pour lutter contre la pollution.
La plupart des véhicules sont détenus par des particuliers comme vous et moi. Ils sont en bon état et ne sont pas prêts à être amenés à la casse. Le système d'évaluation de la pollution à Delhi est dépassé. Bien sûr, il y a énormément de véhicules à Delhi, mais les voitures ne sont pas les seuls responsables de la pollution de l'air.
À New Delhi, la pollution de l'air contraint chaque année ses autorités à fermer les écoles. Pour Falguni Yulman, limiter les vieux véhicules est un premier pas.
Je pense que c'est une bonne décision puisque partout dans les médias, ils parlent de la pollution de l'air à Delhi.
Des dispositifs seront installés dans les stations-service de la capitale pour identifier les véhicules trop vieux, a annoncé le ministre de l'Environnement. Selon l'OMS, 12 000 personnes meurent chaque année de la pollution à Delhi. Léa Ojal, New Delhi. RFI.
On prend des nouvelles du pape hospitalisé depuis plus de deux semaines à Rome pour une double pneumonie. François a adressé ce dimanche un message aux fidèles sous forme d'une lettre. Il les remercie pour leur prière et leur soutien, affirmant se sentir porté par leur affection. Son état reste néanmoins préoccupant, avec un pronostic vital toujours réservé selon le Vatican. Dans sa lettre, il dénonce aussi l'absurdité des conflits et appelle à prier pour l'Ukraine, la Palestine, Israël et d'autres pays touchés par la guerre.
RFI, Radio France Internationale.
15h08 en temps universel. On part dans l'espace avec un nouvel exploit pour l'exploration spatiale privée. Le robot Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace s'est posé avec succès sur la Lune après 45 jours de voyage. C'est la deuxième fois qu'une entreprise privée y parvient, mais cette fois, l'atterrissage s'est fait de manière stable et contrôlée. Ce robot de 2 mètres transporte des instruments scientifiques de la NASA pour analyser la poussière lunaire et le sous-sol. Il fonctionnera 14 jours avant qu'un autre engin, Athéna, ne tente également un alunissage. Ce sera jeudi prochain. Laurence Théo revient pour RFI sur cette mission et ses objectifs.
50 ans après la fin du programme Apollo, les Américains sont de retour sur la Lune. Après 45 jours de voyage, l'engin spatial privé Blue Ghost a donc réussi à se poser doucement ce dimanche 2 mars à 9h35 heure de Paris sur la surface lunaire. Plus fort encore, une manœuvre périlleuse lui a permis d'alunir exactement à l'endroit prévu, c'est-à-dire sur une formation volcanique qui se trouve sur la face nord-est de la Lune. Ce robot compact doré de 2 mètres de haut et de 3,5 mètres de large transporte divers instruments scientifiques de la NASA, à son bord un outil pour forer le sol lunaire et analyser ses températures ou encore un appareil photo. Ces expérimentations permettront aux scientifiques d'étudier par exemple le mystère de la poussière lunaire. Blue Ghost fonctionnera pendant 14 jours terrestres et devrait également immortaliser au cours de son séjour un crépuscule ainsi qu'une éclipse totale de lune, un événement survenant quand l'astre passe dans l'ombre de la Terre.
Merci beaucoup pour ces explications, Laurence, Théo et tiens, on parle également d'étoiles mais de stars. Hollywood est sous les projecteurs, c'est le grand soir à Los Angeles puisque les Oscars célèbrent ce dimanche le meilleur du cinéma. En tête des pronostics, le duel entre Anora, tragédie sociale de Shane Baker, et Conclave, un thriller politique, à suivre évidemment sur RFI.